Le chef de la MONUSCO a affirmé que les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique en RDC sont notamment la publication d'un calendrier électoral réaliste et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Mamane Sidikou l'a déclaré hier mercredi à New York lors de la séance consacrée au débat du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la MONUSCO. Entre-temps, le président de la CENI a rappelé qu'il faudrait 504 jours après la clôture de toutes les opérations d'enrôlement pour organiser les élections en RDC. Quelle analyse faire de ces déclarations? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Honorable John Kolela. Bonsoir Honorable.
Bonsoir Alain.
Vous êtes député national de l'opposition et porte-parole du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Honorable Patrick Thierry André Kakwata, bonsoir.
Bonsoir Yvon.
Vous êtes député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. On me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La séance du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en RDC s'est tenue hier à New York. Dans son discours pour la circonstance, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a aussi abordé les principales conditions pour faire avancer le processus politique en RDC. Mamane Sidikou cite entre autres la publication d'un calendrier électoral réaliste et la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. On l'écoute.
Je souhaite souligner l'engagement de la MONUSCO à soutenir, à travers ses bons offices, les principes de l'accord du 31 décembre. Principes qui représentent la seule voie viable de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, l'établissement d'un budget pour la tenue des élections, la mise en œuvre des mesures de décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentales sont les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique. À cet égard, le soutien des Nations Unies, tout en étant essentiel, ne sera pas suffisant. En effet, les acteurs de la région, notamment l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe, la Conférence économique des États d'Afrique centrale, ont un rôle essentiel à jouer pour aider toutes les parties prenantes à la République démocratique du Congo à relever les défis auxquels elles sont confrontées et soutenir les progrès réalisés dans le processus politique en vue de la tenue des élections. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et de manière solidaire et en synergie que les obstacles auxquels la République démocratique du Congo se heurte maintenant pourront être surmontés.
La République démocratique du Congo tient fermement à l'irréversibilité de l'organisation des élections, mais à des bonnes élections qui pourront conduire à une passation pacifique du pouvoir. Cette déclaration est du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC. Cheikh Kitundu a par ailleurs promis la publication imminente du calendrier électoral. Par ailleurs, il estime que le report des élections en RDC est aussi le résultat du rejet par l'opposition et du manque de soutien de la communauté internationale à deux projets de calendrier électoral publiés en 2014 et 2015 par la CENI. On l'écoute également.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, mon pays a bel et bien mis le cap vers les élections. La question que chacun de vous se pose aujourd'hui est celle relative au calendrier électoral. C'est pour répondre à cette préoccupation que le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a procédé conjointement avec la CENI et le gouvernement à une évaluation du dit processus. Le calendrier sera donc publié incessamment. Toutefois, vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'à deux reprises, la CENI a eu à publier deux projets de calendrier en 2014 et 2015 qui non seulement ont été systématiquement rejetés par l'opposition, mais également n'ont pas bénéficié du soutien attendu de la communauté internationale. Cela a eu comme conséquence le report des élections jusqu'à ces jours. Par ailleurs, pour des raisons d'ordre logistique, financier, sécuritaire et normatif, le président de la CENI a déclaré il y a quelques mois que les trois élections couplées prévues pour décembre 2017 ne pourront pas se tenir à cette date. Quant à la possibilité du report des élections, les dispositions du chapitre 4.4.2 de l'accord politique du 31 décembre 2016 l'ont également prévu.
Les propos de Maman Sidikou et de Léonard Cheokitundu ont été recueillis par nos collègues de la Radio des Nations Unies à New York. Honorable John Kolela, vous êtes député national de l'opposition et porte-parole du groupe parlementaire UDPC allié à l'Assemblée nationale. Comment analysez-vous ces deux déclarations que vous venez de suivre?
Oui, merci beaucoup Alain. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les deux déclarations. Commençant par celle de Maman Sidikou, nous saluons la contribution de la MONUSCO dans tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo et le fait qu'elle a porté plus haut la voix de plusieurs millions de Congolais, parce que je sais très bien que ce que Maman Sidikou a dit ne vient pas de lui, mais il a compris, il a analysé la situation telle qu'elle est sur terrain. Il sait très bien à travers vos radios Okapi, parce que je sais très bien que vous faites souvent des micro-baladeurs, vous connaissez très bien la position de la population congolaise dans sa grande majorité, c'est que nous avons besoin à ce qu'il y ait les élections et les bonnes élections dans le respect de la constitution et des lois du pays. Si Maman Sidikou a dit qu'il faut qu'on respecte l'accord dans son esprit et dans le principe, c'est parce que jusqu'à ce jour, nous restons tous convaincus que l'accord du 31 décembre 2016 n'est pas appliqué jusqu'à ce jour. S'il est appliqué, il est appliqué de manière sélective ou de manière, disons, de manière sélective. Ce qui arrange le chef de l'État, il le fait. Ce qui ne l'arrange pas, il ne le fait pas. Donc, nous sommes devant une situation et à ce jour, si la CENI a décidé de publier les calendriers, vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui qu'elle décide de publier les calendriers, alors que tous ces jours ici, elle tergiversait, disant qu'il fallait terminer avec l'enrôlement. Et à ce jour, l'enrôlement n'est même pas encore terminé, elle s'est décidée de le faire, donc elle devrait le faire avant. C'est pour vous dire que les calendriers devraient être le préalable. Avant même de commencer l'enrôlement, on devrait avoir le chronogramme de tout ce qui devrait être fait. On ne peut pas faire le calendrier mi-chemin parce que dans le processus électoral, l'enrôlement fait partie du processus. Ça devrait être échelonné, ça devrait être connu. Ici, en République démocratique du Congo, on prend le calendrier d'une élection comme un secret d'État. Voilà là où nous en sommes arrivés.
Alors, honorable, vous dites que l'accord n'est pas appliqué, mais on a un premier ministre de l'opposition, le président du CENSA qui est également de l'opposition. Tout ça, vous n'en tenez pas compte?
C'est là où il y a les problèmes. Lorsque votre adversaire s'est choisi lui-même ses propres opposants, il y a eu un problème. Le rassemblement existe. Il faut passer par les officiels, il ne faut pas passer par un mariage putatif au plus haut sommet de l'État. Parce que le mariage Tshibala et le président aujourd'hui, c'est un mariage putatif. On ne peut pas débaucher au plus haut sommet de l'État alors que vous venez de négocier, vous connaissez les officiels. Tshibala n'est pas au rassemblement à titre individuel. C'est l'UDPS qui est au rassemblement et qui en envoie ses enfants. Dès lors que l'UDPS a décidé d'exclure Tshibala de son parti, ipso facto, il a cessé d'être membre du rassemblement. Et aujourd'hui, nous sommes devant un, disons, l'AMP qui s'est choisi ses propres opposants, qui s'est choisi son propre rassemblement. Donc là, vous comprenez que ce sont ses alliés stratégiques pour donner le coup à la véritable opposition. C'est dans ce sens que je vous dis que l'accord est appliqué à géométrie variable. Ce qui arrange le président, il le fait à ses jours. Le vrai rassemblement ne reconnaît pas ce qui est en train de se faire. C'est un coup monté par le chef de l'État et ses alliés pour torturer ou donc vider le sens de l'accord que nous avions ensemble signé.
Vous avez suivi le vice-premier ministre Cheokitundu qui estime que le report des élections en RDC est aussi le résultat du rejet par l'opposition et du manque de soutien de la communauté internationale à deux projets de calendrier électoral publiés en 2014 et 2015 par la CENI.
Faux et archi-faux. Si l'opposition a rejeté le calendrier, il faut se demander les causes. Il ne faut pas dire seulement que l'opposition a rejeté, comme si on parle tout simplement parce qu'on a une bouche. Mais on doit parler parce qu'il y a une raison. L'opposition a rejeté ces deux calendriers pour des raisons d'ordre du respect de la loi. Selon la loi, on oblige à la CENI de publier un calendrier. Un calendrier, c'est un calendrier, ce n'est pas deux. Dès lors que vous publiez un calendrier partiel, cela veut dire qu'il y aura un deuxième. Et le fait de rappeler à la CENI la disposition de la loi pour qu'elle respecte cela ne veut pas dire qu'on a refusé les calendriers, mais on lui a dit tout simplement de corriger. Et dès lors que la CENI a publié un deuxième calendrier qui reporte aux élections au-delà de la loi et de la Constitution, la CENI n'est pas indépendante vis-à-vis de la Constitution. C'est vrai, c'est une institution indépendante, mais au-dessus d'elle, il y a la loi au-delà de laquelle elle ne peut pas aller. Dès lors que vous publiez un calendrier qui va au-delà du 19 décembre 2016, Que voulez-vous qu'on en fasse? Parce que vous êtes CENI, et si on vous le rappelle, on n'a pas seulement refusé, mais on a proposé un calendrier réaliste qui tenait compte de la Constitution. Et la CENI a refusé, et l'a fait même appel à la candidature pour les élections provinciales. Qui lui a arrêté? Le soutien de la communauté internationale, qu'est-ce que le ministre entend par cela? Il voulait que la communauté internationale fasse quoi? Nous sommes un pays souverain, comme ils l'ont toujours chanté. C'était le moment de s'assumer.
En parlant de, en revenant sur la CENI, le président de cette institution, Corneille Nanga, pense qu'il faudrait 504 jours après tous les processus d'enrôlement pour qu'il y ait élection en RDC. Donc là, on est pratiquement en 2019.
C'est ça une autre aberration. Je suis en train de regretter que Corneille Nanga soit le bras séculier de la majorité présidentielle. Corneille Nanga a refusé de donner le calendrier pour dire qu'il faut terminer l'enrôlement. Et aujourd'hui, les 504 jours, il dit après l'enrôlement, c'est alors qu'il le faut 504 jours. Or, on n'a pas encore commencé à enrôler les Congolais de l'étranger. Corneille Nanga veut vous rassurer que dans les 4 mois, parce qu'il a parlé de janvier, dans les 4 mois qui suivent, on va terminer l'enrôlement des Congolais de l'étranger. C'est pour vous dire que c'est une stratégie bien réfléchie ensemble avec la majorité pour nous tirer petit à petit avec de fausses géséances, de sorte qu'à la fin, on arrive même en 2030.
Merci. Honorable Patrick Thierry André Kakwata, vous êtes député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Comment, à votre tour, vous analysez ces déclarations et de Maman Sidikou et du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Chéo-Kitundu?
Merci beaucoup, Alain. Ce qu'il faudrait comprendre, pour ma part, j'estime que la déclaration de Maman Sidikou est réaliste. D'autant plus que, parce qu'il le dit très bien, il faudrait un calendrier réaliste. Et ici, il faudrait d'abord que je puisse faire une mise au point. Le président de la CENI n'a pas publié un calendrier. C'est un expert qui parle. Il a juste donné la façon dont il voit. Les choses peuvent se faire selon son expertise. Jusqu'à preuve du contraire, à ce jour, le pays n'a pas de calendrier électoral. Parce qu'il a même promis que dans les heures qui viennent, nous aurons un calendrier électoral. Mais nous avons un accord.
Mais l'expérience passée, honorable Kakwata, a prouvé que toutes ces opérations pouvaient se faire dans un laps de temps assez réduit.
J'en arrive. Nous avons un accord. D'ailleurs, Maman Sidikou l'a dit, que le respect de l'accord du 31. L'accord dit bien qu'il fallait que nous puissions avoir les élections au plus tard 31 décembre 2017. Mais il y a une clause qui dit évaluation du ternaire institutionnel, CENI, CENSA et gouvernement, pour voir si oui, les élections auront bel et bien lieu au plus tard 31 décembre ou pas. Il devait avoir évaluation. Et jusqu'à preuve du contraire, à ce jour, M. Corneille Nanga ne fait que parler en tant qu'expert parce que l'évaluation n'a pas encore eu lieu. Nous allons nous incliner de la situation, ce n'est que quand on verra ce ternaire institutionnel se réunir et dire... Corneille Nanga n'a fait que présenter ce que lui, en tant qu'expert.
Oui, mais
que faisons-nous?
Que cacherait cette sortie médiatique? Ne fallait-il pas attendre cette tripartite?
Non,
au lieu de faire des annonces
plus
comme ça.
Plus aussi, ils sont dans le silence, c'est plus on leur accuse que pourquoi vous vous taisez. Et lui ne fait que expliquer d'une manière institutionnelle. Ce n'est pas pour dire que ce que M. Corneille Nanga a dit, nous tous nous devons nous incliner en disant oui et amen. Non. Parce que cela interpelle le politique et cela interpelle le CENSA, cela interpelle le gouvernement et l'expert à se mettre autour d'une table. Ça c'est un, parce que la clause est dans l'accord. Corneille Nanga ne fait que vous donner sa situation d'expertise. Mais que faisons-nous politique? Qu'est-ce que nous faisons? Je crois que même ce que moi j'attendais peut-être la journée d'aujourd'hui, c'est de voir une frange des politiques de l'opposition, une frange de politiques de la majorité et certains indépendants ou centristes se dire nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver même à une table avec la CENI, qu'elle nous donne concrètement comment est-ce qu'il a pu faire ses calculs. Il y a moyen, nous sommes aussi des experts, nous sommes aussi intelligents. Nous pouvons aussi lui dire non, si vous avez demandé 504, mais pourquoi vous ne pouvez pas descendre à 460 ou pourquoi vous ne pouvez pas aller à 708? Ce n'est pas parce que Corneille Nanga a dit, directement il faut accuser Corneille Nanga et charger la majorité présidentielle ou le pouvoir en place. Non, Là, vous voyez qu'il y a fuite. Et puis ça, c'est un. De deux, je vais clôturer par là, monsieur Alain. De deux, vous devez noter ceci. Le politique de l'opposition est en train de flouer le peuple, est en train de tromper le peuple. Parce que quand on a commencé l'enrôlement, Corneille Nangaa a dit, nous allons enrôler les mineurs, disons, à partir de 16 ans. L'enrôlement qui se fait actuellement, on est en train d'enrôler à partir de 16 ans. Si réellement, par calcul de Corneille Nangaa, nous arrivons en 2019, ceux qui ont 16 ans cette année sont enrôlés. En 2019, ils auront quel âge? Et nous sommes en 2017. Ils auront 18 ans. Donc c'était quelque chose qu'ils savaient. Mais ils sont en train de cacher la population.
Honorable. Le vice-premier ministre Cheikh Tundu dit, on l'a suivi, que la République démocratique du Congo tient fermement à l'irréversibilité de l'organisation des élections, mais à des bonnes élections. Qu'est-ce que ça signifie, des bonnes élections?
Les bonnes élections, c'est que nous sommes ici, personne n'ignore la situation de 2006, personne n'ignore la situation de 2011. 2006, le sang a coulé. 2011, le sang a coulé. Ceux qui meurent ne sont pas moins congolais que nous qui sommes vivants aujourd'hui. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité, nous sommes de Congolais. Alors nous voulons aussi aujourd'hui que réellement, que nous ayons des élections dignes du nom République démocratique du Congo. Ça,
C'est-à-dire
C'est-à-dire libre, transparente, et que tout un chacun puisse avoir confiance et savoir s'incliner au résultat qu'il y aura.
À quel moment?
Le moment qu'on nous présentera le calendrier et au moment qu'on nous dira, voilà maintenant le mois d'aller aux élections.
Même si c'est en 2019.
Je ne sais pas moi dire à quand, parce que je l'ai très bien dit ici, je n'ai pas encore un calendrier, et moi je suis encore en train d'attendre qu'on puisse appliquer la clause de l'accord qui demande l'évaluation du CENSA, CENI et le gouvernement. Du moment que j'aurai un calendrier, c'est à ce moment que je parlerai. Mais pour l'instant, comme l'expert a parlé, je demande, moi, d'approcher encore l'expert pour lui dire, expliquez-nous un peu clair et net pourquoi vous avez pris 504, pourquoi vous n'avez pas pris 1000 jours, pourquoi vous n'avez pas pris 2 jours.
Merci. Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir, je suis en ligne.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle est votre analyse par rapport à ces différentes déclarations? Vous avez également suivi les honorables John Kolela et Kakwata.
Oui, donc je vais commencer d'abord par la déclaration du représentant du secrétaire général des Nations Unies, donc la République démocratique du Congo, Mamadou Sy. Donc, à la lecture donc de sa déclaration et aussi à la lecture du rapport qu'il a présenté au Conseil de sécurité, il en ressort de manière très claire, sans ambiguïté, qu'il est en train de poser les conditions claires de suivi et de blocage de la situation. Et lorsqu'il pose ces conditions, il sait très bien, parce que lorsque vous lisez le rapport, il ressort de manière claire, sans ambiguïté, que l'on va avoir du mal à pouvoir débloquer la situation telle qu'elle se présente. L'ONU donc estime d'abord, premièrement, que la situation sécuritaire n'est pas propice à ce que l'on puisse aller vers les élections, du fait qu'il y a une multitude de groupes armés et qui sont actifs depuis l'Ituri jusqu'au Katanga. Rajouter le Kasaï et rajouter le Congo central, et cela prouve qu'on aura du mal à pouvoir arriver à décrypter la situation. Et la situation même du calendrier électoral, lorsqu'il réclame effectivement un calendrier électoral réaliste avec un budget, on se sent très bien que ça va être difficile de pouvoir arriver à avoir un calendrier électoral réaliste dans un contexte de sécuritaire qui n'est pas optimal. Et ensuite, il demande aussi des mesures de décrispation politique. Nous savons tous que ces mesures-là visent essentiellement la libération de certains prisonniers politiques, ceux qui sont des prisonniers politiques, et le retour de ceux qui sont à l'étranger. Et enfin, il parle de respect des droits de l'homme et aussi d'autres conditions qui concernent aussi la confiance que doivent avoir les institutions internationales ainsi que les personnels congolais. Et donc, par rapport à ce signal, à ce signal que vient d'envoyer l'ONU à la RDC en disant « Attention, il y a des points rouges », le ministre des Affaires étrangères, dans son rôle, ne peut qu'essayer de proposer, de répondre à ces différentes conditions qui sont posées par Sidikou pour essayer justement de montrer à quel point ce n'est pas la faute de la RDC que les choses n'avancent pas. Même si nous savons que les choses n'avancent pas, il y va de la responsabilité première, effectivement, du gouvernement congolais. Et par ailleurs aussi, même dans son rapport, il souligne encore un point très important qui parle de déplacés internes. Il parle de 3 800 000 Congolais qui sont déplacés internes. Et que ces déplacés internes, dans un contexte des élections, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, le débat sera houleux, j'en suis sûr, au niveau du Parlement, lorsqu'il va s'agir de pouvoir parler, par exemple, de la règle de répartition des sièges avec le fichier tel qu'il se présente, avec 3,8 millions de personnes qui sont déplacées. Vous allez avoir des circonscriptions avec ces déplacés qui vont compter beaucoup de députés par rapport à d'autres circonscriptions. Et ça, ça va encore amener d'autres problèmes au niveau donc du Parlement, au niveau des votes de la loi. J'en passe aussi par rapport aux étrangers, aux gens de la diaspora, et que pour lesquels l'enrôlement n'a pas encore commencé, et pour lesquels on peut être aussi, si on n'enrôle pas à l'étranger, il va vouloir encore modifier la loi électorale, mais il y a aussi plusieurs points qui devraient être modifiés si l'on doit y aller. Je pense aussi que ça signale fort que la MONUSCO envoie à la RDC pour leur dire, écoutez, attention, même si nous vous exigeons des choses depuis plusieurs temps, et malgré ce que nous vous exigez, vous n'arrivez pas à répondre convenablement à différentes conditions. Et la crainte professeur, que l'on peut avoir par rapport à ce discours, c'est que la MONUSCO, avec l'évaluation qu'elle vient de faire par la présidence de son représentant, risquerait d'amener à ce que la MONUSCO, soit on change son mandat, soit la MONUSCO se retire, et avec la question liée à la modification de son mandat et aux diminutions de financement avec la demande des États-Unis, donc on risquerait encore une fois d'arriver à une situation de blocage qui ne va pas se résoudre, et nous resterons professeur, dans un statu quo qui pourrait durer encore plusieurs années.
Professeur, est-il juste quand le vice-premier ministre Cheo Kitundu attribue le report des élections à l'opposition et à la communauté internationale?
Non, ce n'est pas juste, puisque la responsabilité première de l'organisation des élections revient au gouvernement congolais. Et l'organisation de ces élections, c'est une obligation légale, constitutionnelle du gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui doit prendre cette responsabilité. Et c'est le gouvernement congolais qui doit assumer sa souveraineté, et une communauté internationale, via la MONUSCO, via son mandat, n'est qu'un accompagnement, et c'est bien dit, et c'est même dit au niveau même de la CIPI et au niveau même de demandes qui ont été formulées par le gouvernement congolais. Ils ont demandé un accompagnement du processus. Et que si la communauté internationale juge que les conditions d'accompagnement ne sont pas réunies, vous n'allez pas obliger une communauté internationale Merci. À venir vous aider alors que vous ne réunissiez pas les conditions qu'on vous impose.
Merci, professeur. Honorable John Kolela, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Je suis à Bukavu au sud Kivu. Plus d'une personne se pose la question de savoir pourquoi la MONUSCO ne veut pas toujours changer son discours par rapport à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, et pourtant celui-ci avait été violé par la majorité présidentielle dès son entrée en vigueur. Je me demande si la MONUSCO n'est pas entrée d'endormir le Congolais tout en accompagnant Joseph Kabila dans son nouveau glissement.
Honorable, que répondez-vous à ce compatriote ainsi qu'à d'autres qui estiment que la MONUSCO ne fait pas assez?
Oui, merci beaucoup. Je pense que nous devrons d'abord, nous citoyens congolais, prendre nos responsabilités. Tout le peuple du monde sont passés par les étapes au cours desquelles nous sommes aussi. La MONUSCO est venue avec un mandat bien précis, mais il revient d'abord à nos citoyens congolais de nous prendre en charge. Lorsque nos dirigeants sont en train de violer les lois de la République, nous devrons nous décider pour dire que nous devrons les stopper pour qu'ils ne partent pas plus loin. Si vous constatez aujourd'hui et que si vous analysez les fonds et la forme du régime actuel, nous sommes en train de vivre le mobutisme sans Mobutu. Alors, c'est vrai que la MONUSCO a une part des responsabilités par rapport à ce qu'elle devrait faire normalement, mais la grande responsabilité nous revient, nous politiciens, nous citoyens de la République, dès lors que la Constitution a limité le mandat du président à 2 mandats seulement renouvelables, de 5 ans renouvelables une seule fois, dès lors qu'on était arrivé à ce stade-là, il fallait arrêter. À ce jour, si le président continue à diriger la République, tout simplement, il a bénéficié de cet accord-là. Mais l'accord a une durée au-delà duquel il ne peut pas aller. Donc, arrivé le 31 décembre de cette année, le président de la République Donc, c'est fini, il ne s'est pas allé au-delà du 31. Donc, nous, citoyens congolais, nous devons nous mobiliser pour stopper tout esprit d'hégémonie qui veille à ce qu'on puisse rentrer dans les années sombres et de tristes mémoires.
Alors, dans son allocution, le chef de la MONUSCO, en faisant allusion aux différentes organisations régionales et sous-régionales, dit que ce n'est qu'en travaillant ensemble, de manière solidaire et en synergie, que les obstacles auxquels la RDC se heurte maintenant pourront être surmontés. Mais que dire de cette proposition, honorable John Kolela, au moment où actuellement l'opposition est dans une logique de transition sans Kabila?
Oui, la transition sans Kabila, c'est une logique qui est justifiée parce que si je vous posais la question de savoir vous-même comment le président Kabila est arrivé au pouvoir, ce n'est pas la constitution qui lui avait permis parce qu'on avait qu'une loi de 15 articles qui ne prévoyait pas le mode d'accession au pouvoir. Mais il est là comment? Il ne sera pas justifié. Aucun citoyen congolais ne peut vous le dire. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une contribution des uns et des autres. C'est pourquoi si Maman Sidiko a demandé à ce que la communauté régionale, voire même la communauté internationale puisse nous aider, c'est aussi dans le sens de sanctionner tous ceux-là qui sont en train de briller par la violation de la Constitution et la violation des lois. La logique de transition sans Kabila tient debout parce que, à ce jour, il est prouvé noir sur blanc qu'il y a un cerveau moteur qui œuvre à la destruction de notre démocratie. Et dès lors que, durant 17 ans, vous n'êtes pas à mesure de vous conformer à la constitution et aux lois du pays, il est normal, après un bénéfice d'une année, qu'on puisse penser autrement pour que, de sorte que si vous êtes blocage, qu'il n'y ait plus encore de blocage. Si on ne change pas l'équipe qui gagne, donc on doit changer l'équipe qui échoue. Voilà la logique.
L'honorable Kakwata estimait qu'il était il était trop tôt de s'alarmer sur la déclaration du président de la CENI en parlant des 504 jours pour l'organisation des élections en RDC après les opérations d'enrôlement. Il estime que la CENI peut convoquer la classe politique et expliquer comment elle a fait ses calculs. Est-ce que cela ne serait pas une proposition judicieuse?
Je ne pense pas que M. Corneille Nangaa a parlé à titre individuel. Il parle de ce qu'il connaît et de ce qu'il sait. Si c'est à titre individuel, c'est une manière de se jouer de la population, c'est-à-dire que c'est un bouet d'essai, il veut comprendre comment la population va réagir. On ne peut pas se moquer de tout un peuple. 504 jours. C'est la CENI qui avait fixé les élections au mois de novembre 2018 à la cité de l'Oyoa. Ce n'était pas 504 jours. Et cela était compris le moment d'enrôlement. Donc on se moque de qui là? Aujourd'hui, l'honorable Kakwata a dit tantôt là-bas qu'on enrôle les enfants de 16 ans. C'est sur base de quel texte? D'abord, c'est une violation et de la constitution et des lois du pays. Parce qu'on n'a jamais pris une autre décision à autorisant la CENI d'enrôler le moins de 18 ans. Et on est fiers de le dire devant la place publique. Moi, je pense que cela devrait, nous devons nous taire tout simplement parce que c'est une violation de la loi. Et on ne le fait pas aujourd'hui seulement. On avait décidé, la CENI a commencé en 2015. Ce n'est pas aujourd'hui que vous dire que nous sommes en 2017, donc l'opposition savait qu'on arriverait en 2019. L'enrôlement n'a pas commencé aujourd'hui en 2017. L'enrôlement a commencé depuis 2015. Alors, en ce qui concerne l'évaluation de l'accord, oui, on a dit que les trois institutions devraient évaluer l'accord. Ce ne sont pas les trois institutions que M. Kabila s'est choisi lui-même. C'était les trois institutions venues selon la lettre et l'esprit de l'accord. Et avant même d'arriver à évaluer pour repousser la date, ils oublient de le dire, j'aurais souhaité que l'honorable Kakwata le dise ici à haute voix. C'est après chaque 2 mois, depuis le 31 décembre 2016, après chaque 2 mois, ces trois institutions devraient s'asseoir pour évaluer. En évaluant, ils devraient réajuster les erreurs de la CENI de sorte que la date du 31 décembre 2017 soit respectée. Ce n'est pas après une année, vous dites que les trois institutions doivent évaluer pour repousser. Non, c'était d'abord évaluer pour corriger. Merci. Ce qu'on devrait corriger à temps.
Merci, honorable Kakwata. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de l'Ouganda.
Larousse Pascal Koulimouchi, je suis réfugié congolais en Ouganda. On sait bien, on le savait depuis longtemps, que M. Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il faut se prendre en charge et organiser une transition politique sans lui, afin que le pays soit apaisé. Le nombre de Congolais réfugiés ne cesse d'augmenter à cause de l'insécurité qui s'accroît jour le jour. Cette pratique de renvoyer les élections au calendrier grec reste la seule méthodologie pour l'AMP de continuer à brouter la République, fusiller les manifestants, arrêter les journalistes et assassiner les défenseurs des droits humains. Il faut changer. Je pense qu'on doit changer.
Réponse honorable.
Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Je suis vraiment ravi de vous écouter. Mais pour ma part, je peux dire ceci. La majorité n'a pas l'intention, nullement l'intention de prolonger ou de rester tout le temps, comme on le dit, n'est pas organiser les élections. Au contraire,
la majorité veut bien qu'il y ait des élections dans ce pays. Mais ce qu'il faudrait noter...
Qu'est-ce qu'elle fait pour le prouver?
Ce qu'il faudrait noter, c'est que si nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui, c'est l'opposition qui nous fait arriver à cette situation.
C'est l'opposition qui gère le pays?
C'est l'opposition qui nous fait arriver. Pourquoi?
Comment?
S'il vous plaît, j'en arrive. Je me rappelle une fois, le chef de l'État a dit qu'il ne faudrait pas que la majorité puisse prendre la minorité en otage. Il faudrait que nous ayons aussi l'écoute de la minorité. Mais voulons bien écouter cette minorité crée des problèmes. Comment cela? J'aurais juste aimé que l'honorable Kolela, en soulevant ce problème de l'évaluation institutionnelle, des ternaires institutionnels qui est dans l'accord, qu'il puisse au moins dire que combien de fois ils ont traîné le pas pour que nous puissions avoir le CNSA. Nous étions déjà bloqués. Combien de fois ils ont traîné les pas?
Et la majorité a trouvé la solution à sa manière.
Nous n'avons pas trouvé la solution à la manière, mais tout simplement parce que à un certain moment, même les évêques de la CENCO étaient obligés, fatigués de tout. Ils sont rentrés vers le chef de l'État pour dire, nous avons travaillé à 98%. 2%, nous vous retournons. Ce sont les 2%, sur base de 2%, quand les évêques ont tellement attendu. Prenez la date de l'accord du 31 décembre et quelle est la date les évêques sont allés déposer l'accord auprès du chef de l'État en disant 98% de travailler, 2% manque. Déjà, c'est toujours cette opposition qui traînait les pas. Donc, c'est pour vous dire que la situation que nous avons aujourd'hui, c'est cette opposition. Et si aujourd'hui on vous dit tel n'est pas de notre rassemblement, tel n'est pas de notre parti, c'est toujours cette opposition-là.
Et donc pour vous l'accord est très bien appliqué?
L'accord jusqu'à preuve du contraire est appliqué, mais nous avons toujours l'opposition qui traîne les pas.
À quel niveau se trouve l'impasse aujourd'hui?
L'impasse à ce jour, c'est que notre opposition ne reconnaît plus ces gens. C'est là il y a déjà un problème.
Et mais si la majorité pensait que tout allait bien et pouvait continuer son bonhomme de chemin?
Mais vous devez savoir que nous continuons notre bonhomme de chemin. L'imprévu insécuritaire du Kassai n'était pas prévu même à l'accord de l'Union africaine. Ce n'était pas prévu même à l'accord du 31 décembre de Saint-Sylvestre. Ce n'était pas prévu. Il est arrivé quelque chose qui nous est arrivé. Donc vous devez comprendre au moins que la situation qui s'est passée au Kassai, c'est une situation dramatique. Qui a perturbé tout ce que nous avions. Donc s'il y a catastrophe naturelle, vous allez encore dire que c'est un problème de la majorité qui est allée demander à Dieu pour qu'il y ait catastrophe naturelle. Non, il y a un problème. Et même en suivant Maman Sidikou, on vous dit qu'il y a des postes d'insécurité un peu partout. Donc quelque part, il faudrait d'abord un qui ait l'amour de la patrie. Et en ayant l'amour de la patrie, que nous puissions d'abord enterrer notre hache de guerre. Et puis, ce qu'il faudrait savoir à ce jour, la paix que nous avons dans notre pays, ce n'est pas la paix acquise par des armes, c'est une paix acquise par des accords. Et ces accords-là, c'est encore l'opposition qui est en train d'aller encore chambouler tout.
Alors, c'est l'opposition qui est en train de tout chambouler, mais parmi les conditions qu'il pose pour libérer ou pour décrisper le processus politique, Maman Sidikou parle entre autres de la mise en œuvre des mesures de décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentaux. Ce n'est pas l'opposition qui en détient le monopole.
L'opposition n'en était pas le monopole, mais il faudrait comprendre combien de fois on a au moins, il y a eu combien de pas que la majorité a posé, mais l'opposition jusqu'à présent n'a pas encore bougé d'un pas.
En termes de décrispation,
par exemple. En termes de décrispation, il y a des gens déjà à Londres maintenant, à ce jour, au niveau de Makala. Moi, je ne prends rien qu'ici à Makala. Allons voir le nombre qu'il y avait quand on signait, et à ce jour, combien sont déjà à l'extérieur.
Parmi les évadés ou réellement?
Réellement. Et que nous avons même vécu, on a même vu dans les médias comment est-ce qu'ils étaient libérés. Ils y sont. Mais est-ce que l'opposition a-t-il bougé même d'un iota? Non.
L'auditeur Pascal Larousse, Pascal Koulimouchi, ainsi que l'honorable Kolela disent que le peuple doit se prendre en charge d'ici décembre 2017 s'il n'y a pas d'élection. Et puis, il soutient aussi une transition sans Joseph Kabila.
Mais est-ce que vous croyez réellement, si vous êtes un homme conscient, moi aujourd'hui, élu, envoyé par mon patron, le peuple de Kolwezi, que je salue en passant.
Délicacie, je te précise.
Moi, je suis de Kolwezi. J'ai dit le peuple de Kolwezi qui m'envoie, moi, mon patron, que je salue en passant. Je vais demander aux gens de régler un problème par la violence. Prenez-vous en charge d'aller sur la route. Mais non. Et tout ce que nous avons acquis comme valeur démocratique à ce jour, nous allons bafouer. Je crois que Dieu nous a donné une parole. C'est pour que nous puissions se regarder en face et parler. Je n'ai pas besoin d'un dialogue ici. Je n'ai pas besoin de concertation ici. Mais il faudrait qu'il y ait un consensus politique.
Merci. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient du Haut-Katanga.
Delphin Mukala Kamwanga, délicati dans le Haut-Katanga. Le président de la CENI a donné 504 jours sans pour autant faire des calculs. Parce que si on prend 504 jours, ça sera déjà en juin 2019. Or, l'enrôlement doit prendre fin à mi-novembre de cette année. Maintenant, avec ces chiffres de 504 jours, n'est-ce pas, il y aura d'autres nouveaux majeurs enrôlés et beaucoup de morts sur les listes électorales. Quelle est encore la raison d'être dans les prochains jours de la tripartite FENSA, gouvernement et elle-même la CENI? Suite à cette déclaration de M. Nanga, moi je vois qu'il faut encore s'attendre à un nouveau enrôlement dans les jours à venir, donc en 2019.
Professeur Bob Kabamba.
Excellente question de la part donc de l'auditeur. Je soulève là quelque chose de très important qu'on a déjà connu justement en 2011, où lorsqu'on commence un processus d'enrôlement, on arrive au bout de l'enrôlement et qu'on a l'impression qu'il faudra encore recommencer pour que ceux qui n'ont pas été enrôlés pendant ce moment-là, qui ont maintenant 18 ans, puissent pouvoir le faire donc conformément à la loi. Et ici, je pense que la CENI avait prévu que le matériel allait rester. Alors, je ne sais pas si la CENI va refaire une mise à jour de ce fichier électoral. Je ne pense pas qu'ils vont faire une mise à jour de ce fichier électoral, parce que faire une mise à jour de le fichier électoral veut dire encore retarder le processus, veut dire encore faire attendre que l'on puisse arriver à avoir une liste affichée électorale qui soit affinée, qui soit nettoyée, parce que ce n'est pas encore nettoyé pour l'instant. On devra attendre de pouvoir terminer pour pouvoir nettoyer ce fichier. Et donc, on va arriver avec les 504 effectivement, à avoir une nouvelle génération qui ne pourra pas aller aux élections. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, qu'il faut aussi se rendre compte en donnant ce chiffre de 504, qui n'est pas compréhensible, qui peut être compréhensible justement en ayant une série de mesures qui peuvent être prises et pouvoir réduire ce chiffre. Je pense que M. Nanga, en essayant de donner ce chiffre, c'est une façon de pouvoir mettre le problème sur la table en disant clairement que la CENI ne pourrait pas aller en dessous de 504 jours si d'autres conditions ne sont pas réunies, notamment la question de l'enrôlement au Kassai, notamment la question de la sécurisation du pays. Mais je pense qu'il y a moyen, en ayant retravaillé sur ce 504, de pouvoir arriver à les réduire sensiblement, notamment de manière budgétaire.
Professeur, l'opposition a fait un grand lobbying dernièrement aux États-Unis pour obtenir une transition sans Joseph Kabila. Cette option est-elle plausible selon vous?
Bon, l'option n'est pas plausible pour la bonne et simple raison que la Constitution, elle est claire à ce sujet. Et puis il y a aussi un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est tout aussi clair et limpide et qui dit effectivement que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu, et à l'installation effective du président élu. Donc, essayer de dire que il faut une transition sans Kabila, de mon point de vue, est une violation claire de la Constitution et des dispositions constitutionnelles. Et même la Cour constitutionnelle avait déjà réglé cette question. Et donc, si Nanga craignent à pouvoir organiser les élections, et alors c'est le président Kabila qui reste président jusqu'à ce qu'il y aura des élections et jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président. En plus, il doit être élu. Élu, ça veut dire qu'il n'est pas donné, il ne peut pas y avoir un président au Congo s'il n'est pas élu.
Professeur, le chef de la MONUSCO, Mamane Sidikou, a déclaré, je cite, à cet égard, le soutien des Nations Unies, tout en étant essentiel, ne sera pas suffisant. En effet, les acteurs de la région, notamment l'Union africaine, la SADC, la Conférence des États de l'Afrique centrale, ont un rôle essentiel à jouer pour aider toutes les parties prenantes en RDC à relever le défi auquel elles sont confrontées et soutenir le progrès réalisé dans le processus politique en vue de la tenue des élections. Professeur, que peut-on attendre encore, ou que peut attendre la RDC et ses organisations régionales et sous-régionales qui lui ont prêté main forte dans la signature des deux accords de l'Union africaine et de la CENCO, mais qui aujourd'hui semblent à bout de souffle?
Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ces organisations, si ce n'est, je pense, uniquement une espèce de soutien par rapport à un processus pour que ce processus ne puisse pas dérailler. En termes de financement, par exemple, on ne peut pas attendre beaucoup d'un financement venant de ces organisations pour pouvoir aider, par exemple, le Congo à pallier cette carence de financement du processus électoral. Ce n'est qu'un soutien politique qu'ils peuvent avoir, notamment, par exemple, si, comme on a connu il y a quelques jours, le fait que le groupe Maïma Yakutumba a essayé de prendre la ville d'Ouvira. Alors imaginez-vous que s'il y a un pays étranger avait donné un appui au groupe Maïma Yakutumba, je pense que Ouvira serait déjà tombé et une partie du pays serait déjà entre les mains de ce groupe rebelle. Et c'est ce genre, je pense, ce genre d'appui et ce genre d'attitude que Mamadou a voulu mettre en exergue. Parce que vous pouvez vous imaginer que s'il y a un groupe qui décide en disant nous voulons imposer une transition militaire ou bien une autre transition, et nous faisons un groupe rebelle et nous allons aller prendre le pouvoir à Kinshasa puisqu'il n'y a pas des élections. Et là, généralement, le mouvement rebelle, quand ils se mettent en route et lorsqu'ils sont activés, ils ont toujours besoin d'un soutien d'un pays étranger qui puisse apporter sa caution, non seulement sa caution, mais aussi un soutien militaire, financier et même un homme pour le faire aboutir. Alors, c'est uniquement une façon, justement, de demander à l'Union européenne et aux organisations régionales de veiller à ce que...
Merci, professeur. Souffrez que je vous arrête. Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Honorable John Kolela, en parlant de décrispation politique, l'honorable Kakwata a estimé qu'il y a déjà des faits palpables. Avez-vous quelques noms par rapport à ça?
Je vais vous dire que construire sans achever, c'est détruire. On a décidé de libérer tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. On ne peut pas dire parce qu'on a libéré 10, il en reste 50, donc on a fait, on attend le geste. Non. Moi, ici, au moment où je vous parle, j'ai reçu une lettre venant de la prison de Ndolo. Des gens qui devraient bénéficier de l'amnistie et qui y traînent. Je peux vous citer le professeur Jimmy Ambumba Linganga. Je peux vous citer le professeur Michael Bonekoube. Je peux vous citer le docteur Pierre Ferruzi. Ce sont eux qui m'ont dressé une liste d'environ 160 détenus qui devraient bénéficier de l'amnistie qui ne sont jamais sortis. Au moment où je vous parle, il y a le militant de l'UDPS qui ont fait au-delà de 3 mois dans les geôles de l'ANR. Je peux citer Jacob Beya et les autres.
Alors la liste n'est pas exhaustive, honorable. En guise de conclusion, comment vous voyez la suite du processus politique après toutes ces déclarations en guise de conclusion?
En guise de conclusion, il faut rentrer à la case de départ. Il y a un accord qui souffre de son application. Il ne revenait pas au chef de l'État de se choisir ses propres opposants et aujourd'hui, nous sommes presque à la case du départ. Les trois institutions...
Pour avoir les élections, dans combien de temps si on doit revenir à la case de départ?
Il est possible d'avoir les élections dans moins d'une année. Merci. Il est possible. C'est question de mettre le moyen et la volonté.
Merci. Honorable Kakwata, il faudrait qu'on revienne à la case de départ.
Je suis content qu'ils reconnaissent au moins qu'il y a un fait qui est là et nous sommes en chemin pour ce qui est de décrispation politique. Je suis content qu'au moins ils le reconnaissent. Et puis s'il dit revenir à la case de départ, c'est tout ce que moi je disais tout à l'heure. J'ai dit, on n'a pas besoin d'un dialogue, on n'a pas besoin de concertation, mais pour l'instant, nous avons besoin d'un consensus politique. Parce que
qui passerait par quoi?
Mais c'est à cela, nous devons encore réévaluer avec eux. Nous devons réévaluer l'accord. Qu'ils viennent, qu'on puisse réévaluer l'accord. Et là, à ce moment-là, maintenant, nous mettrons le président de la CENI qui nous dira comment est-ce qu'il a pu avoir ces 504 et nous allons trouver une solution par là.
Et votre conclusion?
Ma conclusion à moi, c'est faire confiance aux institutions de la République et que la majorité s'est déjà engagée à ce qu'il y ait des bonnes élections et que nous puissions avoir une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président élu et un président sortant.
Dans combien de temps?
Le temps, c'est pas moi qui le détermine. Le temps, c'est l'expert qui doit le déterminer, bien sûr, après évaluation entre nous tous politiques. Et je profite pour saluer la population de Kolwezi.
Professeur Bob Kabamba, il faut revenir à la case de départ, dit l'honorable John Kolela. Il pense qu'en moins d'une année, on peut avoir les élections. Est-ce que vous partagez ce point de vue en guise de conclusion?
Non, ça ne peut pas. On ne peut pas revenir à la case de départ. Et je crois que le signal de la MONUSCO est très clair. Je crois que le Congo est au bord du gouffre et que la MONUSCO vient de lancer un signal rouge en disant faites attention, pas revenir à la case départ, c'est plutôt avancer et pour par rapport aux élections, ne pas revenir en arrière. Parce que si revenir en arrière, le Congo n'a pas les moyens de revenir en arrière, le Congo n'a pas, la population a déjà beaucoup souffert et la population congolaise a besoin d'aller de plutôt que de revenir à la case départ.
Merci, monsieur. Cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Merci de votre attention. Au revoir.